Chapitre 19. Campés sur le mur d'enceinte, Bannon sondait la plaine. Il brûlait d'envie de se battre, car l'inaction le minait, mais face à une telle horde, que pouvait faire une simple ville, même aussi grande qu'île Dakar? Sur un plan personnel, Bannon n'avait toujours pas digéré la trahison des trois jeunes hommes qui se prétendaient ses amis. Des faux jetons, oui. Son cœur en saignait encore. Amos, Jed et Brock l'avaient piégé, puis il n'avait pas levé le petit doigt pour l'aider. Alors qu'il avait fini prisonnier dans les fosses de combat, aucun des trois ne s'était donné la peine d'avertir Nietzsche et Nathan. Au bout du compte, Bannon avait survécu, éprouvé, mais peut-être plus fort qu'avant. Cela dit, comment des amis pouvaient-ils se comporter ainsi? La réponse coulait de source. Ce n'étaient pas des amis. Lors de leur dernier entraînement, Lila avait exhorté Bannon à ne pas ruminer ses rancœurs. Pour survivre à l'épreuve imminente, île Dakar ne devait plus se déchirer. Face à une horde de soudards, on enterrait ses querelles et on se serrait les coudes. D'accord, mais Jed et Brock avaient été un peu trop loin. Sous la houlette d'Amos, ils avaient pris sous leur aile un jeune et naïf étranger, prétendant vouloir lui faire découvrir leur ville. En réalité, il s'était fichu de lui. Sauf que Bannon n'avait rien d'un jeune type crédule. À présent, il était temps pour lui de prendre son courage à deux mains et d'aller affronter le duo de salopards survivants pour leur faire mesurer leur infamie au minimum. Refermant la main sur la poignée enveloppée de cuir de solide, Bannon sentit les muscles de son avant-bras se gonfler. Des muscles d'acier. À force d'entraînement, de duel et de corps à corps, le jeune compagnon de Nietzsche était désormais un homme puissant au cœur de fer. En bas du chemin de ronde, Bannon prit la direction du quartier des écorcheurs, dont le seigneur Auron, nouveau membre du Douma, dirigeait la guilde. Accessoirement, il s'agissait du père de Brock. En chemin, le jeune escrimeur n'accorda aucune attention au jardin en terrasse et aux vergers qui s'échelonnaient sur le flanc de la colline. En équilibre instable, des ouvriers agricoles récoltaient le raisin, les pommes et les olives. Après les émeutes, on avait laissé aller à volo tous ces trésors. Que les nobles attrapent des ampoules en travaillant, pour une fois. C'était bien beau, mais d'autres citadins, y compris parmi les esclaves, comprenaient que la cité assiégée aurait besoin de toutes ses ressources pour survivre. Si on laissait pourrir les récoltes, les esclaves affranchis ne crèveraient pas moins que les nobles. Du coup, des hommes et des femmes retournaient au travail de leur propre chef, avec la judicieuse idée de nourrir leur famille. Bien que vêtus à la mode d'île Dakar, Bannon faisait dans la simplicité. Les capes doublées de fourrure et les pantalons bouffants, très peu pour lui. Malgré ses nombreuses aventures, il se tenait toujours pour un simple fermier de l'île de Chiria. Et cette humilité-là, il entendait ne jamais l'oublier. Amos, Jed et Brock l'avaient considéré comme un inférieur. Pourtant, il l'avait entraîné dans une dacha, l'incitant à jouir comme eux du corps des très belles yaksènes de soin. Pour se moquer de lui ou pour le corrompre, finir par leur ressembler aurait été la pire défaite possible. Les yaksènes de soie étaient conçus et entraînés pour assouvir les plus vils instincts de leurs clients. D'après ce qu'on disait, elles n'avaient ni pensée ni sentiment. Pourtant, Bannon avait toujours eu de la peine pour elles. Fils de Thora et Maxime, Amos avait une souffre-douleur prénommée Mélodie. La nuit de la révolte, il l'avait violée et battue. Avec un morceau de verre brisé, elle s'était enfin autorisée à riposter. Cette nuit-là, plusieurs yaksènes de soie avaient tué leur tourmenteur. Après, elles étaient redevenues comme avant, dociles et passives, sans nier leur crime ni se justifier. Avec tout ce qui se passait, Bannon doutait qu'elles soient un jour contraintes à rendre compte de leurs actes. En un sens, justice avait été faite. Comme quand on avait pendu son père, coupable d'abominables violences sur sa mère. Jed et Brock, eux, n'avaient jamais dû se défendre face à leurs victimes ni reconnaître leurs responsabilités. Avaient-ils au moins vaguement honte? Devant lui, Bannon vit enfin le manoir d'Auron, directement relié au long bâtiment où les écorcheurs pratiquaient leur profession. Pressant le pas, le jeune escrimeur mobilisa la force et le courage qu'il avait acquis depuis sa rencontre avec Nietzsche et Nathan. En voyageant avec eux, il avait tellement changé. Sans savoir exactement ce qu'il attendait de ses anciens amis, il devait aller au bout de cette affaire. Quand il fit sonner le petit gong à l'entrée de la résidence, personne ne vint lui ouvrir. Entendant des bruits à l'intérieur, il poussa la porte qui céda sans grincer, entra et eut la surprise de découvrir un groupe de serviteurs vautrés sur les divans et les fauteuils.
Pardonnez-moi, mais vous ne m'avez pas entendu frapper?
Les domestiques ricanèrent. Sur un divan, un type d'âge moyen se redressa à demi. Vêtu d'une grossière tunique d'esclave, il avait autour de lui une pile de draps de soie, une autre de manteaux bordés de fourrure et un tas de bijoux volés ici ou là.
« Par la barbe du gardien, le seigneur Auron peut aller ouvrir sa porte lui-même. Pourquoi devrions-nous être serviables avec toi, mon gars ?»
Bannon ne cacha pas sa surprise.
« Parce que j'ai combattu à vos côtés pendant la révolte. Après avoir fui la reine, j'ai contribué à arrêter le massacre non loin de la pyramide. »« Droska !» grogna un autre type. « Pourquoi viens-tu voir Auron ?»« Tu veux le tuer ?»
demanda un troisième esclave, plein d'espoir.
« Si c'est ton intention, il est possible que nous t'aidions. » « Non, je n'en veux pas à sa vie. Au cas où vous auriez oublié, c'est un puissant sorcier. Contre Outros, nous aurons besoin de lui. De vous aussi, soit dit en passant. Tous les combattants seront précieux. Nous en avons assez fait pour Ildakar !»
lâcha le premier esclave.
« À présent, c'est à la ville de nous rendre notre dû !»
Agacé, Bannon mit un terme à la polémique.
« Je viens parler à Brock, le fils du seigneur Auron. »
L'esclave désigna le fond de la maison.
« Par là, dans le bâtiment des animaux. Comme nous refusons de travailler, Auron a dû s'y mettre en personne. »« Il est temps qu'il se salisse les mains !»
ricana le deuxième esclave.
« Aujourd'hui, il a recruté de force Brock et Jed. Méfie-toi, il risque de t'enrôler aussi. Les bêtes ne s'écorchent pas toutes seules, et si on ne fait rien, elles finiront par crever sous leur fourrure. »« Je serai vigilant, »
promit Bannon.
« Douce mère la mère. Dans quoi me suis-je fourré ?»
Alors qu'il se dirigeait vers les cuisines au fond de la demeure, un des esclaves le rappela.
« Si t'as faim, le garde-manger déborde de nourriture. Sers-toi avant qu'un de ces maudits nobles se goinfre. »« J'ai déjà mangé, »
marmonna Bannon. Il traversa les cuisines où tous les fours étaient froids. Grands ouverts, les placards témoignaient de pillages récents. Sur le sol, des fruits à demi-mangés finissaient de pourrir, et de la farine renversée maculait tous les plans de travail. Dans un coin, à côté de deux bouteilles de vin vides, une solide cuisinière ronflait comme un sonneur. S'engageant sous une tonnelle, Bannon suivit le chemin de gravier qui menait à un entrepôt au toit rond et aux grandes fenêtres à moitié ouvertes. Des grincements en montaient, ponctués par les cris de douleur des animaux. Bannon s'immobilisa, plus très sûr de vouloir continuer. Quand le capitaine des Norukai l'avait roué de coups près des abattoirs, Amos et les deux autres avaient ri comme des petits fous. En piteux état, il avait ensuite été livré à Adessa pour qu'elle le prépare à mourir au combat dans l'arène. Ses amis avaient promis de ne pas le laisser tomber, mais c'était du baratin. La porte poussée, Bannon entra dans un grand bâtiment rempli de cages où s'entassaient d'innombrables animaux. La source des superbes fourrures dont se paraient les nobles et les sorciers d'Ildakar. L'odeur de sang, d'excréments et de terreur prit à la gorge le jeune escrimeur. Ici, des bêtes crevaient à la chaîne dans l'indifférence générale. Au milieu, entre les rangées de cages, des établis s'alignaient, tous munis de rigoles pour l'écoulement du sang. Huit travailleurs au tablier taché de fluide vital s'affairaient autour de ces sinistres autels. Auron était du nombre, le visage et le torse constellés de zébrures rouges. Sous son tablier de cuir, sa belle chemise de soie ne ressemblait plus à rien. Ses longs cheveux, tressés pour l'occasion, étaient empoissés de sang. D'une voix puissante, il cria des ordres aux autres travailleurs, des nobles aussi, mais moins huppés que lui.
« Si nous n'écorchons pas ces bêtes, les fourrures cesseront de pousser. La survie de notre guilde dépend de nous. Quand ces chiens d'esclaves se tournent les pouces, c'est à nous de travailler. »
L'air épuisé, le seigneur semblait verdâtre à force de dégoût. Remontant la rangée de cages et d'établis, il grommela.
« Maintenant que j'appartiens au Douma, j'ai 10 fois plus d'obligations. Il faut que je puisse me reposer sur d'autres membres de la guilde. »
Il se tourna vers un jeune homme livide.
« Tu fais partie du lot, mon fils. » « Jusque-là, tu as eu la vie belle, mais il va falloir te salir les mains. »
Au premier coup d'œil, Bannon n'avait pas reconnu Brock. Où était donc passée son arrogance et sa superbe?
« J'ai toujours fait de mon mieux !»
se défendit le jeune noble. Découvrant enfin ce que faisaient ces gens, Bannon recula, choqué. Ouvrant une cage, les écorcheurs s'emparaient d'un animal pour le porter sur un établi. Sans rapport avec rien que Bannon n'eût jamais vu, ces bêtes avaient d'énormes corps, des têtes dépourvues de cou et des pattes atrophiées qui battaient frénétiquement l'air. On eût dit de gros ballots de fourrure vivante. La tête minuscule rappelait irrésistiblement celle d'une tortue. Des tortues à fourrure? Non, décidément, il ne s'agissait pas d'animaux normaux. Encore une ignoble création des sorciers de chair, des êtres modifiés pour produire un bien de consommation précis. Sous les yeux de Bannon, dont personne n'avait remarqué l'intrusion, un autre jeune type écœuré, Jed, s'avéra-t-il, s'empara d'un animal à la fourrure rouille. Une fois sa proie posée sur l'établi, il leva sa main armée d'un couteau.
« Seigneur, dit-il à Auron, nous faisons ce que nous pouvons. »
L'animal immobilisé par la main gauche de son bourreau, la lame lui entama l'épaule puis descendit le long de son corps. Quand l'incision fut achevée, Jed posa le couteau, saisit la peau au niveau de la première incision et tira. On eût dit qu'il pelait un fruit, sauf que celui-ci était vivant et souffrait mille morts. Le pire, c'était que la pauvre bête écorchée continuait à vivre.
« Combien de temps pour que ça repousse ?»
demanda Jed tout en ramenant la créature dans sa cage.
« Les bêtes qui survivent, » répondit Auron, « seront de nouveau écorchées dans 3 semaines. »
Bannon crut qu'il allait vomir. Dans ses cages, il y avait des centaines d'animaux.
« C'est horrible !» cria-t-il. « Vous êtes tous répugnants !»
Surpris, les écorcheurs le regardèrent avec de grands yeux.
« Cette ville est une abomination !»
Revenu de sa surprise, Auron se frotta les mains.
« Tu tombes bien, mon garçon. On croule sous le travail pendant que des tas de paresseux refusent de bouger un cil. »«
Vous torturez ces pauvres bêtes !»
grogna Bannon. Depuis toujours, il adorait les animaux. Auron eut un geste impatient.
« Les fourrures, tu crois qu'elles viennent d'où? Toute société a sa face sombre, petit. Tu aimes la viande ?» Pour manger un rôti de Yaxen, il faut d'abord tuer l'animal, à moins que tu préfères vivre nu et bouffer des racines. »
Malgré son envie de vomir, Bannon avança jusqu'à l'endroit où Brock et Jed, couverts de sang, travaillaient côte à côte.
« On se demandait ce que tu devenais, »
fit Jed avec un rictus mauvais.
« Tu t'es bien amusé avec Adessa dans la fosse de combat ?»«
Disons que j'ai survécu. J'en ai appris long sur moi-même. » Et sur vous deux.
Brock prit une autre créature et la posa sans ménagement sur son établi.
Si tu es vraiment notre ami, donne-nous un coup de main. Nous n'avons jamais été amis. Vous vous fichiez de moi, c'est tout. Mais je suis plus fort désormais et je vous vois sous votre véritable jour.
Mais nous n'y sommes pour rien, dit Jed.
C'était Amos. On s'est contenté de suivre le mouvement.
Ça fait de vous ses complices. Vous auriez pu avertir Nietzsche ou Nathan, mais me savoir dans cette affaire vous plaisait. »
Même s'il n'avait aucune intention de s'en servir, Bannon laissa glisser sa main sur la poignée de Solide. Effrayés, Jed et Brock sursautèrent. Les voix apeurées fit un drôle d'effet à Bannon qui poussa son avantage.
« Amos est allé trop loin avec Mélodie et il a payé de sa vie. La nuit des émeutes, vous avez eu de la chance. »«
On s'est caché, »
avoua Brock.
« C'était la meilleure solution. »
« Amos est mort !»
s'indigna Jed.
« Et c'était le fils de Thora et Maxime !»«
Les deux seuls habitants d'Ildakar qui le pleureront !»
lâcha Bannon.
« Mais la souveraine est en cellule et le sorcier en chef affilé !»
Bannon éprouvait une colère et un dégoût sans rapport avec la fureur meurtrière qu'il habitait parfois. Devenu fort, il avait besoin de dire tout ça à haute et intelligible voix. Sans se troubler, Brock entama la peau de l'animal en cours de traitement.
Auron approcha, l'air très mécontent.
« Brock vit depuis des siècles dans l'insouciance, » grogna-t-il. « C'est mon échec en tant que père. Aujourd'hui, il doit être le digne fils d'un membre du Douma. Il faut qu'il travaille et se rende utile. »
Vexé, Brock continua à écorcher sa victime impuissante.
« Nous nous sommes battus pour la ville, » grogna-t-il. «
À chaque sortie, nous allions frapper des guerriers de pierre. Qui d'autre le faisait? Si tout le monde s'y était mis, il n'y aurait pas de menace aujourd'hui.
Casser des statues, quel héroïsme!
Lâcha Bannon.
Vous vouliez combattre Outros pour ses méfaits passés? Eh bien, c'est le moment ou jamais. La ville est assiégée par de vrais soldats désormais. Quand viendra l'heure, serez-vous en première ligne?
Malgré la puanteur qui lui nouait l'estomac, Bannon leva fièrement le menton.
Nous avons déjà fait notre part,
maugréa Brock. Auron ne l'entendit pas de cette oreille.
Mon fils, tu dois faire quelque chose de ta vie. Après des siècles de labeur acharné, je suis enfin membre du Douma. Il faut que tu te montres à la hauteur, Brock. Jed, Dame Olgia, ta mère, a les mêmes exigences. L'heure venue, j'entends que vous fassiez votre devoir tous les deux. Le général Outros ne renoncera pas, vous devez le savoir.
Il n'y aura pas besoin de se battre,
insista Brock.
Les sorciers trouveront un moyen de briser le siège.
Auron ouvrit une cage et en sortit une créature à la fourrure noire qui couina de terreur.
Ils essaieront, mais si on en vient aux armes, toi et ton ami, vous n'y couperez pas.
Posant sa proie sur l'établi, Auron se tourna vers Bannon.
Mets un tablier, mon gars, et prends un couteau. Ton aide ne sera pas de trop.
Le jeune escrimeur recula.
Pas question. Je vous laisse au glorieux métier que vous êtes né pour faire.